L'association AF3V existe depuis 1998. Elle est constituée de bénévoles et je suis très content que vous me posiez cette question parce que, au départ, ces bénévoles sillonnaient la France dans des chemins de halage, des anciennes voies ferrées. Et ils trouvaient qu'on pouvait utiliser ces voies autrement. Donc ils ont commencé à rassembler ces données. Une base de données a été créée. Et puis de fil en aiguille, un guide touristique est paru. On est arrivé maintenant à recenser quasiment 7000 km sur les 10 000 km de véloroutes et de voies vertes qui existent. Et c'est un travail là aussi de bénévoles, qui sont au nombre de 20 000 en France, qui représentent plus de 500 associations. On a sur ce territoire donc des bénévoles qui parcourent les voies et qui ensuite envoient ces renseignements sur le site national. Et tout ceci est mis en forme sous forme de fiches techniques, sous forme de cartes, de renseignements pratiques, d'infos. C'est un peu le guide du routard, hein, celui qui a partagé sa voie aujourd'hui. Ben dans 6 mois, il y a peut-être un autre qui va y venir et qui va trouver des choses différentes, des dégradations ou des améliorations par exemple.
Vous êtes parti le samedi 2 juillet pour une randonnée militante pour rejoindre le mardi 12 juillet Cahors. Vous êtes parti de Limoges. Aujourd'hui, c'est la 4e étape. Comment vont les jambes des cyclistes après cette étape de 46,4 km qui a rallié Saint-Léonard au lac de Vassivière ?
Ça a été aujourd'hui la journée la plus éprouvante pour les spécialistes. Il y a plus de 600 mètres de dénivelé sur une étape de 50 km. Ça représente des pourcentages assez importants. Et Moutier, par exemple, c'est 9 km de côte en sortant pour venir jusqu'à Beaumont-du-Lac. Alors tout ceci, ça m'amène à vous parler justement de ce site de la F3V. Lorsque nous décrivons les parcours, eh bien, on fait toujours référence à une famille avec un enfant de 8 ans. Est-ce qu'il serait à même de faire ce parcours-là ? Tout l'intérêt de notre site AF3V, c'est justement de concevoir des parcours, des étapes. Aujourd'hui, par exemple, il aurait fallu s'arrêter avec une famille, avec un enfant de 8 ans, il aurait fallu s'arrêter à Émoutier et demain faire Émoutier-Vassivière, et non pas d'une seule traite, puisque c'est quand même assez éprouvant. On n'est pas fatigué parce que bon, la forme vient aussi en roulant, c'est la 4e étape, on a déjà fait plus de 200 km. Demain, il y a une étape un peu plus reposante qui va nous amener jusqu'à Bugeat. Et par contre, jeudi, là, on va encore retaper dans le dur puisque de Bugeat, on va monter vers Saran, le puits de Saran, après être passé à Chaumeil. Là aussi, ça va être une étape difficile, mais bon, on s'habitue.
Pourquoi vous vous êtes lancé dans une randonnée militante ce samedi 2 juillet, une randonnée militante à vélo ?
On arrive en coïncidence avec le Tour de France. Alors on pourrait penser que c'est une action commune. Bon, alors le Tour de France fait partie de la famille du vélo, mais les coureurs ont autre chose à faire que de faire du militantisme. Alors nous, on fait du militantisme en prenant sur notre temps de vacances et en organisant ces randonnées. Alors pourquoi faire du militantisme ? Et tout simplement pour demander plus d'aménagement. Voilà pourquoi au cours des randonnées, on essaye de voir le maximum d'élus. Aujourd'hui, vous voyez, on a vu le maire de Saint-Léonard ce matin, on a vu le maire des Moutiers à midi. Et chaque jour, on voit au minimum 2 élus. Et on essaye de les motiver pour qu'un aménagement soit lancé sur leur communauté de communes, puisque maintenant, on ne raisonne plus au niveau de la commune, mais au niveau des communautés de communes, et même au niveau des pays bientôt, puisqu'il y a des offices de tourisme qui vont être créés par pays sur les 3 communautés de communes, là entre Vassivière et Saint-Léonard. Voilà ce qu'est une randonnée militante, donc demander plus d'aménagement à nos élus qui sont sensibles à nos demandes, mais qui, on le voit, notamment pour Saint-Léonard, puisque nous étions passés en 2014, n'ont pas encore passé de la réflexion à l'action.
Vous parlez d'équipement, c'est quoi exactement une véloroute ou une voie verte ?
Une véloroute, c'est un aménagement qui emprunte donc les routes classiques. Simplement, il est choisi cet itinéraire parce que la route est à faible trafic, que les carrefours ont été étudiés pour la sécurité des cyclistes, c'est-à-dire que si on croise par exemple une départementale importante. On s'efforce de mettre en amont pour les automobilistes une signalisation qui les renseigne sur la présence des cyclistes. Le choix des itinéraires pour constituer une véloroute peut amener à inclure une voie verte. Par exemple, nous espérons que bientôt, la voie verte des Hauts de Tardoir qui part de Champsac et qui va jusqu'à Oradour-sur-Vair sera incluse dans le parcours de la véloroute V90. Je suis un petit peu technique, mais je suis certain que vous me reposerez la question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une V90 ? Sur des itinéraires véloroutes, donc, on peut inclure des portions de voies vertes.
Est-ce qu'on peut faire un état des lieux des véloroutes et des voies vertes en Limousin par rapport à ce qui existe au niveau national ? Et justement, c'est quoi une V90 ?
Oui, je m'en doutais. En 98 est paru le schéma national des véloroutes et voies vertes. Et dès 98, on a maillé le territoire, si vous voulez, avec des itinéraires, comme pour les routes, on a attribué des numéros, et même on a des euro-véloroutes. On connaît très bien le V6, l'euro-véloroute, c'est la Loire à vélo. On connaît aussi peut-être dans la région le V1, c'est la Vélodyssée, qui part de Hendaye et qui va jusqu'à Roscoff, par exemple. Alors la V90, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une véloroute qui est incluse dans le schéma régional, puisque ce schéma régional Limousin est paru en 2008, donc il sert de référence aux autorités organisatrices, soit les départements, comme je le disais tout à l'heure, soit les communautés de communes, qui veulent donc créer des véloroutes. Donc ils ont le maillage à eux, sur cet itinéraire, de réaliser une chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette V90 ? Et puis après, je dirai qu'est-ce qui existe en Limousin ? Eh bien, la V90, c'est tout simplement une véloroute qui arrive du nord du département de la Creuse, à Crozant exactement, qui arrive jusqu'à Saint-Léonard, et qui de Saint-Léonard descend jusqu'à Limoges, et sur le papier, bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore réalisée. Elle s'arrête à Saint-Martin-Sainte-Catherine, avant le territoire de la Haute-Vienne et avant Saint-Léonard. Et ensuite, elle descend jusqu'en Dordogne, jusqu'à Périgueux. Périgueux qui a réalisé un magnifique aménagement véloroute incluant des voies vertes, de Périgueux jusqu'à Libourne. En Limousin, nous avons une armature très intéressante, qui n'est pas la V90, mais qui est la V87, qui part de Montluçon et qui arrive jusqu'à Beaulieu. Je vous la fais courte. De Montluçon, on rentre en Creuse à Chambon-sur-Voueize, Chambon-Char, Chambon-sur-Voueize. On traverse toute la Creuse, on arrive ici à Royères. La V87 se poursuit au lac du Chamais, Perlevade, Bugeat. On descend jusqu'à Argentat et Beaulieu. Et là, malheureusement, on s'arrête à Beaulieu avec la V87, à Liourdes exactement, 14 km après. Voilà pourquoi dans notre randonnée militante, nous allons jusqu'à Cahors pour demander aux élus du Lot une continuation de cette V87, au moins jusqu'à Cahors pour le moment.
En 2009, vous aviez pointé du doigt le département de la Haute-Vienne comme étant un mauvais élève côté véloroute et voie verte. 7 années plus tard, est-ce que ça a changé ? Est-ce que ce mauvais élève s'est amélioré ?
Alors, c'est vrai que c'est moi-même qui l'ai dit d'ailleurs, qu'il était mauvais élève. L'élève a commencé à travailler sérieusement la question, puisque vous savez que nous, en tant qu'association, quand on regarde ça de l'extérieur, on ne comprend pas forcément toute l'arcane des règlements et des changements d'organisation. Donc là, ils sont soumis à des contraintes que nous ne connaissons pas forcément. Et c'est vrai que le temps passe. Et depuis cette parution du schéma régional en 2008, je l'ai déclaré, 6 ans après, quand c'était en 2014, et maintenant 8 ans après, il n'y a pas 1 km de véloroute en Haute-Vienne. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bloqué quand même. Tous les élus que nous avons rencontrés vont démarrer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, ni où ça va commencer, mais ça va commencer. C'est dans l'air du temps, c'est historique de toute façon. Le tourisme itinérant est une composante du tourisme qui n'est pas négligée par les élus. Simplement, il faut qu'ils trouvent les organisations. Le paysage a beaucoup changé avec les communautés de communes, avec les pays qui sont arrivés. Je vous parlais tout à l'heure de l'organisation des offices de tourisme en pays, c'est-à-dire sur plusieurs communautés de communes. Donc ils sont plutôt dans les organisations actuellement que dans les décisions. Mais comptez sur nous, on sera présent pour, dès que les organisations seront en place, pour leur rappeler donc tout ce qu'ils nous ont dit quand nous sommes passés dans les différentes communes.
Vous avez parlé de rencontres avec les élus. Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie à faire avec les 10 élus pour leur expliquer l'intérêt de ces voies vertes, de ces véloroutes et du vélo en général ?
D'abord, je prends l'exemple du maire de Saint-Léonard. Quand nous sommes arrivés en 2014, il ne connaissait pas cette connexion des véloroutes sur sa commune. On s'aperçoit que ce n'est pas leur préoccupation première. Voilà pourquoi je les ai interpellés avant la randonnée, je leur ai écrit à tous, toutes les communes traversées. J'ai même été un peu trivial puisque je leur disais que l'aménagement finalement d'une véloroute n'était pas très coûteux. Si nous faisons référence à ce qui s'est passé en Creuse, bien que ce soit des aménagements, nous en convenons, qui soient réalisés, on ne va pas dire à minima, ça serait vexant, mais qui sont réalisés sommairement, on va dire, pour réaliser 150 km, ça coûte 250 000 euros. C'est ce que nous avons dit aux élus quand nous les avons rencontrés. Quand vous faites construire un rond-point sur votre commune, ça vous coûte 500 000 euros. C'est les données du Centre d'études techniques de l'équipement. Ça veut dire qu'actuellement, pour la valeur d'un demi-rond-point, on peut créer 150 km. Donc, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de volonté. Il faut les motiver, il faut leur faire comprendre que finalement, ce n'est pas une grosse dépense qui peut se phaser sur 2 ans, sur 3 ans. Sachez que, par exemple, sur la Loire à vélo, il y a un équipement qui bat tous les records en France, avec 850 000 personnes qui le fréquentent chaque année. Sur ces 850 000 personnes, au moins 200 000 réalisent de l'itinérance, c'est-à-dire font 200-300 km sur cet équipement. Les données du ministère nous donnent 70 euros dépensés par cycliste itinérant et par jour. Faites le calcul rapidement, 200 000 personnes, ça vous fait une retombée économique de 14 millions d'euros à la fin de l'année. Ce qui veut dire que l'équipement Loire à vélo, qui dans les années 2010 a coûté 60 millions d'euros à 2 régions, 6 départements qui l'ont réalisé, eh bien, en 5 ans, c'est-à-dire en 2015, ils avaient déjà amorti leur investissement. Ce qui veut dire, et je le dis aussi bien aux élus qu'aux responsables des communautés de communes, 1 euro investi dans le vélo, c'est 1 euro de retombée économique.
Est-ce que malgré ces arguments, il y a des élus qui vous ont mis face à une fin de non-recevoir, soit qui ont décidé de ne pas vous rencontrer, soit qui vous ont clairement expliqué que ce projet ne les intéressait pas ?
Ça, nous ne l'avons encore jamais rencontré. Il faut leur rendre hommage. Ils sont tous de bonne écoute et de bonne volonté. Le maire des Moutiers a découvert certaines choses avec nous, avec quelques détails techniques qui n'étaient pas de sa connaissance, parce que bon, il était penché sur d'autres problèmes. Mais il nous a promis de se pencher sur cette question et avec donc les élus des communautés voisines, de réaliser au moins un travail de réflexion d'ensemble sur le parcours de la V93 qui va de Bassivière donc jusqu'à Saint-Léonard.
Cette randonnée militante apporte aussi son soutien à des associations locales et au monde rural. Quelle forme prend ce soutien ?
Alors nous avons choisi, lorsque nous traversons donc les départements, de contacter les associations locales. Nous avons sur le département de la Haute-Vienne donc une association locale qui était l'association Véli-Vélo, qui milite à Limoges pour des aménagements notamment en bord de Vienne, qui ferait un magnifique tracé de véloroute, mais qui milite aussi pour des aménagements urbains. Nous avons un collectif que nous soutenons depuis plusieurs années en Creuse, à Guéret, mais cette année nous n'allons pas le rencontrer puisqu'on évite quasiment la Creuse, puisque demain on sera déjà en Corrèze. Et donc on a ce soutien aux associations locales, c'est notre souhait, parce que d'avoir comme ça 30 cyclistes qui rencontrent des élus et qui peuvent porter des problèmes locaux, c'est important pour eux. Après votre deuxième question concernant le soutien au monde rural, eh bien, la forme même de cette randonnée, vous avez vu, c'est de partir tous les jours avec son vélo. Donc il faut penser tous les jours à faire ses courses. Donc on va dans les commerces locaux. On a, et par le passé notamment, traversé des communes où il y avait un épicier. L'épicier fermait à midi et demi. Donc il fallait arranger sa randonnée de manière à ce qu'à midi et demi, enfin avant même, on soit chez le commerçant. Je me rappelle, j'ai des anecdotes où une année, par exemple en 2014, à Bourg-Saint-Georges, l'épicier, M. Amida, je me rappelle encore de son nom, nous attendait. Il avait un gros jambon, il avait une grosse meule de fromage. Je peux vous dire qu'après le passage des 30 personnes, il nous disait même qu'il avait réalisé pratiquement le chiffre d'affaires de la semaine. Donc voilà ce qu'est le tourisme itinérant à vélo. Quand on dit qu'on vient au soutien ou en soutien du monde rural, eh bien on fait nos courses dans les commerces locaux et on ne va pas forcément dans les supermarchés, puisque dans le monde rural, les supermarchés sont très rares. Donc on vient ici et on consomme avec les commerçants locaux.
Regarde comment il est déformé, c'est la structure qui est en train de lâcher.
Ah oui.
On va le toiler là, et puis pour essayer d'arriver jusqu'au prochain magasin.
Je suis très chargé à l'arrière, et j'ai dû prendre une pierre où on est passé par des sentiers à un moment donné. Et du coup, je pense qu'il est, il est complètement, il est abîmé, quoi. La structure est attaquée.
Oui, là on peut voir en fait qu'il y a eu un impact d'un gravier ou d'un bout de verre. C'est plus souvent des bouts de verre qui attaquent comme ça. Et que le pneu est pas mal déformé, donc c'est la structure interne qui est en train de lâcher la toile. Il reste quand même de la gomme dessus, il n'est pas complètement usé, mais il est tout déformé. Donc à tout moment, il peut se déchirer et puis partir dans une descente ou un truc comme ça. Donc c'est pas sûr, il va falloir travailler dessus. Ce soir, on va faire un bandage provisoire déjà pour tenir jusqu'à la prochaine ville où on pourra trouver un pneu pour le changer parce que là, il faut le remplacer. Après, là, on est un peu dans l'urgence, donc on va faire un bandage pour le renforcer pour qu'il tienne sur la journée de demain ou sur deux jours si on ne peut pas en trouver de même.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe qui s'est lancée dans cette randonnée militante cette année? Est-ce qu'il faut être nécessairement membre de l'association pour participer à cette randonnée?
Non, il y a une particularité, c'est-à-dire que moi, en tant qu'organisateur, je dois prendre une assurance d'organisateur de randonnée. Automatiquement, de par l'assurance, je fais adhérer mes participants donc à l'association Le Limousin à vélo. Et c'est donc chaque participant qui devient adhérent donc, de la F3V. C'est un petit détail technique pour un problème de responsabilité vis-à-vis des assurances. Les participants ici, qui sont au nombre de 23, mais il y en a une qui nous a quittés cet après-midi, une dame qui reprenait le train à Imoutier. Demain, nous récupérons trois Toulousains qui nous rejoignent à Bugeat. Il y a un noyau dur, on va dire. Il y a un noyau dur. Je regarde mes collègues. Là, il y a des Toulousains, il y a des Montpelliérains, des gens de Pau, de Mont-de-Marsan, de Bordeaux, de Paris. Et d'une année sur l'autre, disons qu'on incorpore 4, 5 personnes de plus qui viennent, qui regardent comment ça se passe, qui sont intéressées parce qu'elles découvrent ce qu'est la randonnée. Parce que chez nous, il n'y a rien du tout de sportif. On fait 50-60 km, mais on y allie aussi le plaisir de la découverte. On a découvert un peu d'art contemporain aujourd'hui avec l'espace Paul Robérol à Imoutier. Ensuite, on a été visiter le centre d'art contemporain de Vassivière. On essaye de se distraire et de ne pas rendre le vélo trop compliqué et difficile.
Comment vous avez choisi le parcours, le nombre d'étapes, la distance totale ?
C'est un détail technique, en effet, de préparation. C'est 6 mois de préparation, à peu près, une randonnée comme celle-ci. Le temps de repérer les campings, reconnaître les étapes, les tronçonner ensuite en étapes réalisables par l'ensemble des participants. C'est une préparation en amont importante. On choisit les étapes déjà en fonction du tracé qu'on veut voir créer ici. Par exemple, on a essentiellement les deux premières étapes du samedi 2 et du dimanche 3 étaient sur une partie qui serait le futur tracé de la V90. Depuis lundi, depuis Limoges, donc, on a fait une action sur les bords de Vienne pour expliquer à la communauté de communes avec qui nous étions en discussion à 9h et avec la mairie avec qui nous étions en discussion à 9h30, avec deux groupes différents. Vous voyez que les élus qui, en 2014, n'avaient pas répondu présent, là, nous ont invités à des réunions. Par contre, depuis Limoges, on est sur le tracé d'une V93 jusqu'à Royères. Donc, on est en train de faire, avec les élus que nous rencontrons, donc un travail de réflexion sur ce futur itinéraire qui reste à créer. Demain, nous atteindrons Bugeat, et là, c'est un autre tableau, si vous voulez, puisque là, en pénétrant sur cette V87, nous avons l'idée, et nous allons avoir ce discours avec les élus, avec les maires des différentes communes jusqu'à Beaulieu, nous avons l'intention de demander la création d'un comité d'itinéraire. Alors en France, il y a une autorité organisatrice des véloroutes et voies vertes qui s'appelle Département et Régions Cyclables. Donc à la fin de cette randonnée, nous ferons un rapport à cette autorité en demandant et en donnant surtout les avis des différents maires du parcours entre Perlevade et Beaulieu, en leur demandant donc à tous ces élus s'ils sont favorables à la création de ce comité d'itinéraire. Ça permettrait d'avoir une action commune tant sur des problèmes basiques comme la signalétique, soit aussi sur la création d'une identité. On pourrait appeler cette véloroute la Transmassif Centrale, par exemple, depuis l'Allier, depuis Moulins, jusqu'à Cahors, par exemple. Voilà notre action. Alors, la rencontre des élus se double aussi d'engagement qu'on essaye de leur faire prendre. Bon, là, on va leur suggérer cette initiative qui est fréquente en France. Il y a des comités d'itinéraire sur le canal du Midi, il y a des comités d'itinéraire sur l'Euro-Véloroute des pèlerins, par exemple le V3 ou le V1, la Vélodyssée.
Vous êtes parti pour 10 jours de vélo non-stop, sans journée de repos. C'est un choix, que j'allais dire, sportif ou une nécessité d'emploi du temps ?
C'est une bonne question, parce que justement, dans les réunions préparatoires qui ont eu lieu avant la randonnée, l'idée est revenue sur le tapis. En principe, nous l'avions fait en 2014, il y avait une journée de repos pour ceux qui le souhaitaient. Là, il se trouve que cette année, nous avons allégé les étapes. Vous voyez, l'étape d'hier ne faisait que 37 km, l'étape d'aujourd'hui 46. Ce sont des petites étapes. Nous allons revenir à un rythme plus élevé avec des étapes de 60 km. Mais c'est vrai que dans le découpage, ça n'a pas été possible puisqu'il fallait arriver le mardi 12. Nous sommes à Cahors donc le 11 au soir et le mardi 12, nous rencontrons le conseil départemental avec qui nous avons réunion pour parler justement de cet aménagement du nord du département. Voilà pourquoi il faut concilier l'emploi du temps et le bien-être également. Bon là, ça va aller quand même. Personne n'a rechigné aujourd'hui, personne ne se plaint, donc tout va très bien.
Comment un cycliste se prépare pour une randonnée comme celle-ci de 500 km et comment il prépare son vélo ? C'est quoi un bon vélo et un bon cycliste ?
Alors c'est une très bonne question ce que vous dites. Quand vous allez sur notre site Le Limousin à vélo, il y a le site de la randonnée, il y a justement des conseils pratiques. Je le dis pour les auditeurs, si vous voulez préparer une randonnée, allez sur ce site www.lelimousinavelo.fr, mais il y a aussi des conseils sur le site national www.af3v.org. Qu'est-ce que c'est qu'un bon cycliste qui veut partir en randonnée ? Bon, il faut penser qu'il y a un minimum d'entraînement. J'ai un petit peu l'habitude, je peux vous dire qu'à partir de 2000 km pratiqués depuis le début de l'année, c'est-à-dire, vous voyez, sur 6 mois, ce n'est pas énorme, ça fait 300-400 km par mois. Ramené à une semaine, ça fait une centaine de kilomètres par semaine, donc ça veut dire 2 sorties. Pour faire ces 2000 km, on peut en 6 mois y arriver. Une fois qu'on a fait ces 2000 km, il faut après commencer à charger son vélo, parce qu'un vélo non chargé et un vélo chargé ne réagissent pas de la même façon. Vous allez me dire dans les côtes notamment, c'est vrai. Mais il y a aussi des problèmes de maniabilité. Donc il faut s'entraîner avec un vélo, avec 2 sacoches, avec 4 sacoches par exemple. Qu'est-ce qu'ensuite un bon vélo c'est un vélo de randonnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un vélo avec un porte-bagages et une valisette, par exemple. Il faut prévoir un vélo avec deux sacoches à l'arrière, généralement deux sacoches à l'avant, pour répartir le poids. Parce qu'un randonneur comme ici vous avez, eh bien, il a son duvet, il a son matelas, il a sa tente, son nécessaire de cuisine avec un petit réchaud par exemple. Et comme il n'y a pas de frigo sur le vélo, eh bien, il amène quelques victuailles, il fait ses provisions de bouche, en plus des affaires de rechange qu'il peut traîner dans son vélo. Sachez quand même que si le cycliste veut choisir la formule de la randonnée mais ne veut pas s'embarrasser d'une tente, d'un matelas pneumatique ou d'un duvet, il peut choisir, et nous avons 5 participants de la randonnée qui ont choisi cette formule-là, la formule des gîtes. Et là, vous avez un vélo tout de suite allégé d'une dizaine de kilos. Et le soir, donc, nous avons réservé des gîtes également pour ces participants. Ils se retrouvent dans des chambres d'hôtes, dans des gîtes. Donc, c'est un autre confort que le camping.
Alors, vous l'avez expliqué, cette randonnée n'est pas une compétition. Est-ce que malgré tout, en interne, on se fait quand même un petit classement des différents participants? Et est-ce qu'il y a une voiture balai?
Ah, très bien comme question, très intéressant. J'aurais oublié de vous en parler sinon. Non, il n'y a pas de classement. Des fois, il y a des petites... le premier arrivé gagne ci ou gagne cela. Non, mais ça se limite à ça. Hein. Par contre, en ce qui concerne le phénomène dont vous parlez, la voiture balai, ça n'existe pas chez nous. Mais par contre, il y a un serfil, c'est-à-dire le dernier est désigné tous les jours à la réunion du matin où nous préparons la randonnée. On présente toute l'étape de la journée et on désigne, enfin, il s'autoproclame d'ailleurs, serfil. Et c'est une personne qui a tous les numéros des participants, qui a le numéro de l'organisateur et qui, en dernier, s'il y a des crevaisons, des casses mécaniques par exemple, signale tout de suite à la tête de la randonnée qu'il y a un problème. À ce moment-là, on s'arrête et on attend. Et nous avons la chance, alors suivant les années, alors soit il y a une infirmière, soit il y a un médecin. Bon, cette année, il n'y a ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais ça se passe bien quand même. Mais on a eu des randonnées avec un médecin, des randonnées avec une infirmière. Cette année, par contre, nous avons un mécanicien. Et si les vélos sont malades, il y a toujours quelqu'un qui peut arriver à les réparer. Et nous avons la chance d'avoir un mécano émérite. Il vous répare tout, il vous refait un dérailleur le matin, si vous cassez le soir. Enfin bon, c'est formidable de partir avec lui. Luc Novales.
Et côté météo, est-ce que cette année, le temps, la météo est de votre côté?
Ah ben écoutez, là, on ne se plaint pas, on croise les doigts. J'ai regardé la météo jusqu'à samedi prochain. Il n'y a pas une goutte d'eau en vue. On était passé en 2014 ici, à proximité à Royères. C'est le maire qui nous avait sauvés. Ça faisait 3 jours qu'on était sous la pluie. Et il nous avait ouvert son gymnase. On le remercie s'il entend cette émission. On le répète souvent, son geste nous avait été vraiment droit au cœur. Parce que depuis 3 jours, on pliait, on dépliait, tout le monde était mouillé. On avait passé une nuit au sec dans le gymnase de Royères de Vassivière. Alors que cette année, on est vraiment tout à fait dans une situation de météo estival, avec un temps qui n'est pas chaud, avec un fond d'air qui est assez frais, donc tout est formidable pour faire du vélo.
En tant que cycliste au quotidien, de manière générale, et en tant que cycliste sur cette randonnée en particulier, quel constat vous faites de la cohabitation cycliste-automobiliste ?
Bien, le choix des chaussées sur lesquelles nous avons circulé est assez bon pour l'instant. L'itinéraire a été bien choisi. Il est certain que l'automobiliste, lorsqu'il voit un groupe de cyclistes, et nous y faisons attention quand nous sommes sur des routes très circulées, nous faisons des paquets par exemple de 5-6 cyclistes avec un gilet jaune devant, un gilet jaune derrière, les réactions sont très bonnes dans l'ensemble. On n'a pas rencontré d'animosité, et je ne le dis pas parce que je suis à la radio, hein. C'est beaucoup plus difficile par exemple en agglomération, là ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté avec les automobilistes. On a une signalétique ensuite sur les vélos, on a les gilets, on a les petits panonceaux qui indiquent la randonnée, donc les automobilistes sont assez curieux de voir même tous ces vélos, et l'accueil de la population en général est très bon.
Et enfin, comment, en quelques mots, vous réussiriez à convaincre quelqu'un qui hésiterait à se mettre à faire du vélo ?
Ben, il faut monter sur le vélo. Moi, j'ai une tendance à dire qu'il vaut mieux partir en groupe. Alors, des fois, c'est un peu lourd, mais c'est surtout tellement riche d'enseignements. Moi, j'ai fait ma première randonnée, j'ai commencé en 2010. Je suis venu au sein de cette organisation AF3V un petit peu pour ça aussi. Ma première randonnée, je l'ai faite, il y avait 25 personnes. J'ai regardé à droite, tiens, là, lui, il a un petit siège pliant, c'est intéressant. J'ai regardé à gauche, là, tiens, il avait un petit matelas, c'est beaucoup mieux que le matelas que j'aurais pu avoir. Et puis, on se constitue, si vous voulez, des références. Et on est moins gêné pour partir, comme on dirait, à l'aventure. Là, on part un peu rassuré, avec un équipement sommaire, mais suffisant pour faire une randonnée agréable. Je dirais que le plus important, c'est de se décider, c'est d'aller jusqu'au bout de la rue chez soi, et de tourner à droite ou à gauche, et de ne pas revenir tout de suite.
Le plus dur, c'est de monter. De partir, ne pas oublier d'enlever la béquille, bien positionner le guidon et mettre la bonne vitesse, pas trop dur, pour pouvoir démarrer en douceur. Allez, on y va doucement.